L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Catherine Jabali. Elle est la petite fille d'Elisabeth et Eugène Munch. Ils reposent tous les deux au cimetière de Bossendorf dans le Bas-Rhin. Ils viennent d'être honorés avec une plaque commémorative liée à leur titre de juste parmi les nations. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Catherine Jabali, bonjour.
Bonjour.
Alors vos grands-parents, Elisabeth et Eugène Munch, sont alsaciens. Ils ont sauvé au moins une cinquantaine d'enfants juifs alors qu'ils tenaient une maison du nom des Grillons, c'était à Chambon-sur-Lignon. Alors, dans quelles circonstances sont-ils arrivés à Chambon-sur-Lignon ?
Alors, ça nous amène à remonter à l'évacuation de Strasbourg en septembre 39. Ils partent pour la Dordogne, ils sont séparés, ma grand-mère avec les deux enfants et mon grand-père direction l'armée, puisqu'il est réincorporé. Cela drôle de guerre, je crois, donc il est quelques mois, lui, au service de la France et elle, donc, en Dordogne, à Brantôme précisément. Et puis, ils se retrouvent. Un ami pasteur qui s'appelle le pasteur Estopé, qui est un Suisse, que mon grand-père a connu dans sa vie de capitaine de l'armée du salut, ils ont fait l'école militaire ensemble, qui est devenu pasteur, lui demande de les rejoindre au Chambon-sur-Lignon pour tenir une maison d'enfants. Mes grands-parents avaient été officiers d'armée du salut et avaient une expérience de la gestion, de l'accueil de structures, d'œuvres sociales. Donc ils viennent, entre-temps ma grand-mère a accouché, donc ils viennent avec un bébé de 2 mois et demi, une petite fille de 5 ans, ma mère, et mon oncle de 10 ans.
La maison des Grillons, où ils ont officiellement pris leur fonction, était pourtant, dans tous les registres aujourd'hui, était fermée au moment où ils sont arrivés. Ils ont tenu cette maison, ils se sont occupés des enfants de façon totalement clandestine.
Oui et non, le Chambon-sur-Lignon, c'était un village où la population entraînée par le pasteur Trocmé faisait ce qu'on peut qualifier de résistance civique ou de résistance civile, c'est-à-dire s'opposer à l'ennemi, à l'envahisseur, en accueillant les persécutés et notamment en premier lieu donc les enfants juifs, tout en leur posant pas de questions sur leur origine. Le pasteur Trocmé cherchait des hébergements et demandait qui voulait bien prendre en charge des anciens testaments, je mets des gros guillemets. Voilà. Et donc mes grands-parents sont appelés par un autre pasteur pour ouvrir une des nombreuses maisons d'enfants. En tout, il y en avait 36 référencées dans le village du Chambon. Et ils ouvrent cette maison donc à l'été 42. En juin 43, il y a une rafle diligentée par, on pense par Barbie à Lyon, qui trouvait que la police française ne faisait pas beaucoup de zèle et n'est pas très efficace au Chambon. Donc là, il envoie une colonne et la résistance n'en a pas connaissance assez tôt. Et donc, ils prennent à ce moment-là une douzaine d'étudiants juifs accompagnés de leur enseignant Daniel Trocmé, leur directeur, qui choisit de partir avec eux et qui ne reviendra pas des camps. Et c'est à ce moment-là que les historiens locaux ont dit que la maison des Grillons avait été fermée, puisque Daniel Trocmé avait aussi un rôle dans cette maison. Et en travaillant sur le sujet, j'ai découvert que ça n'était pas le cas et que cette maison avait encore fonctionné 2 ans.
C'était une filière pour cacher et des enfants juifs et des enfants dont les parents étaient, eux, c'était en 42, étaient déjà déportés.
Alors,
on a l'historique des enfants accueillis.
Non, vous savez, c'est la question de l'histoire contemporaine, c'est encore des choses qu'on découvre à l'heure actuelle. Donc il y a une de mes amies qui s'appelle Muriel Rosenberg qui a écrit un dictionnaire des réfugiés et des enfants cachés et elle a trouvé 3000 noms sur ce plateau, puisque c'est le Chambon, mais c'est aussi les villages alentour. 3000 noms, c'est quand même très conséquent pour une population quasiment de même importance.
Oui.
On est dans une situation de 1 pour 1. Et puis, donc, les maisons d'enfants fonctionnaient. Comment les enfants arrivaient là? Alors, certes, il y avait un certain nombre d'œuvres qui les dirigeaient, l'OSE notamment, différentes structures, les éclaireurs de France également, enfin, toute une organisation. Et puis, après, il y avait le bouche à oreille. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est d'essayer de comprendre, étant donné que j'ai retrouvé dans les noms des enfants. Donc aujourd'hui, j'ai 51 noms et j'ai plein de photos. Et je ne sais pas nommer surtout faire coïncider les noms et les visages des enfants cachés. Parmi eux, je sais qu'il y a des Alsaciens, grâce au travail de Muriel. Maintenant, comment ces Alsaciens sont-ils arrivés dans une maison tenue par des Alsaciens? C'est mon sujet. Et c'est en ça que je serais très heureuse si votre radio pouvait m'aider.
Alors évidemment, on postera sur nos réseaux et notre site les photos des visages des enfants dont vous nous ignorez aujourd'hui l'identité. Vous ignorez également si encore ces enfants sont vivants aujourd'hui. Mais vous cherchez, vous, aujourd'hui, à faire un état, en fait, à mettre un nom en face de ces enfants et de voir un petit peu peut-être aussi leur parcours,
leur destin,
et comment est-ce qu'ils sont arrivés dans cette maison des Grillons et qu'est-ce qu'il est devenu d'eux après le passage dans cette maison. Aujourd'hui, quelles sont les réponses que vous cherchez encore en dehors des noms? Ou est-ce que vous avez, vous, échangé avec vos grands-parents autour de ce sujet-là?
Alors oui, j'ai eu la chance de bien les connaître toute mon enfance, et quand ils sont morts, j'avais 16 ans pour elle et 18 pour lui. C'est des gens qui ont été très importants pour mes frères et sœurs et moi, pour nos cousins, vraiment, ils ont été extrêmement chaleureux, on les adorait. Et on a parlé un peu avec eux de la période de la guerre, mais en substance, ils estimaient n'avoir fait que leur devoir. Hein, comme beaucoup de protestants, si vous voulez, c'était quelque chose de normal. On prenait en charge, on aidait. Donc, il n'y a pas de question autre que celle-ci. Hein. Ils ont fait ce qu'ils devaient.
Voilà. Ils n'ont pas fait une chronologie de leurs actes,
non,
de leur passage.
Pas pris de notes, rien. Ils ont simplement conservé des photos. Et aujourd'hui,
c'est les photos que vous avez,
oui,
vous, aujourd'hui.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, ils reposent dans ce cimetière de Bossendorf. Ils sont en pleine terre. C'est une tombe très simple. Et ils sont sous un énorme rocher que mes parents ont remonté du Chambon-sur-Lignon et fait graver en guise de pierre tombale. Et comme ça fait 25 ans, début avril, qu'ils ont été faits juste honorés de cette médaille, eh bien, nous, on commémore en mettant une plaque. C'est l'actualité du moment.
Qui, en 2020, a proposé leur nomination de juste parmi les nations? Il faut savoir qu'il faut plusieurs témoins directs, oui, et vivants de cette période-là pour que Yad Vashem étudie le dossier et ensuite attribue ce titre.
Alors, c'est précisément pas en 2020, parce que plusieurs de ces personnes sont malheureusement aujourd'hui décédées. Donc, c'est en 2001.
2001, excusez-moi.
Ce sont les enfants Maryse et Arlette Auerbacher, qui, je crois, ont passé quasiment les trois années 42-45 dans cette maison, si j'en crois mes photos. Et puis, les enfants Schmoll Bishop, qui sont tous les quatre de Strasbourg. J'ai eu la chance cette semaine de boire un café avec Monsieur Schmoll, qui est encore dans la mémoire, est extrêmement vive du haut de ses 97 ans, et qui se souvenait de son passage, qui lui a duré seulement quelques mois, 3 ou 4 mois, me disait-il, en hiver, dans cette maison des Grillons.
Cette maison des Grillons, donc, elle servait de maison d'accueil pour des enfants juifs, certainement en lien avec des canaux de résistance. Quelle était la fonction, vous, de vos grands-parents? C'était de s'occuper des enfants, clairement, c'était plus sur l'administratif, ça devenait une espèce de grande famille.
Il y avait ce côté-là, oui. Pas très loin, en journée d'une colonie de vacances, parce que c'était, j'ai beaucoup de photos où ils jouent. Les enfants tirent à la corde, déguisement, etc. Ils allaient au collège Sévenol ou à l'école primaire pour les plus petits, au Chambon-sur-Lignon. Mais après, le sujet basculait dans quelque chose de beaucoup plus angoissé la nuit. Et j'ai su par ma grand-mère et par ma mère, ma tante, que beaucoup de ces enfants faisaient pipi au lit, pleuraient beaucoup. Et donc là, ma grand-mère en particulier les consolait, voilà, parce que l'angoisse de l'absence des parents se faisait plus forte à la nuit tombée. Et le jour, ma foi, c'était des conditions, somme toute, assez agréables. Ma mère en a d'excellents souvenirs d'enfant, quelque chose de heureux, paradoxalement. Bon, cela dit, elle était avec ses parents, ce qui n'était pas le cas de ses enfants. Voilà, donc le jour, ça jouait, ça c'était des choses assez légères, et le soir, la peur, la tristesse remontait.
Donc ces enfants, dans la journée, allaient à l'école, n'étaient pas cachés. Leur non. identité était cachée des oui. administrations, mmh. j'imagine, oui, mais eux n'étaient cas. Pas cachés, avaient une vie normale dans les écoles du village, par exemple.
C'est ça. Il y avait une conspiration du bien, ont raconté certains auteurs, c'est-à-dire que c'était au vu et au su de tout le monde. Quand vous voulez cacher quelque chose, et ben vous le mettez en plein centre, et donc voilà. Tout le monde s'en faisait comme si de rien n'était. Simplement, quand on devait parler des enfants juifs, on parlait des Anciens Testaments. C'est une façon de...
Qu'est-ce qu'elle a représenté, cette reconnaissance de juste parmi les nations pour vos grands-parents ?
Alors, pour eux, malheureusement, c'était post-mortem.
C'était post-mortem.
Ils étaient décédés plus de 20 ans plus tôt. Par contre, pour notre famille, nous, les petits-enfants, nous sommes 7 petits-enfants, 6 vivants aujourd'hui, beaucoup d'honneur pour nos cousins germains qui seront là aussi, beaucoup de fierté. Et puis aujourd'hui, en vivant moi-même au Chambon-sur-Lignon, je m'interroge beaucoup sur la question de la relève. Donc j'appartiens à une association qui est celle des Amis du lieu de mémoire, il y a une espèce de musée de cette histoire au Chambon. Et nous qui sommes des descendants de justes ou d'enfants cachés, nous essayons d'inscrire cette mémoire dans la contemporanéité et de faire se rencontrer les descendants. Parce que nous pensons que quand on se connaît, quand on s'apprécie, de fait, c'est une façon de lutter contre les formes d'antisémitisme qui sont quand même, forcé de le constater, en vive relance dans notre pays ces derniers temps.
Vous, aujourd'hui, vous vivez donc à Chambon-sur-Lignon,
oui.
C'est par hasard, j'imagine.
Mais non, c'est-à-dire que ma mère a tellement aimé sa vie là-bas pendant ces années de guerre que quand elle a été adulte, elle y est revenue en vacances. Et nous avec les petits. Et de fil en aiguille, les petits ont grandi. Et puis moi, j'étais à Lyon, c'était seulement à 1h30. J'ai acheté une résidence secondaire. Et la résidence secondaire est devenue principale. Mes deux parents y ont fini leur vie. Ma mère est encore vivante, mais maintenant elle est en établissement. Mon père est mort et enterré au Chambon. Et voilà, on s'est réinscrit dans cette tradition et on est en contact avec, alors plus ou moins amical, avec plusieurs enfants cachés. Dont un immigré aux États-Unis s'appelle Peter Feigl. Et ce Peter a eu l'idée d'emporter avec lui des photos d'identité des enfants, dont il a fait don au mémorial de Washington. Et ces photos m'ont mis sur la piste. Voilà. Lui, je l'ai rencontré en 2023. Il est très vif, encore vivant, très, très agréable, très reconnaissant à la France et au village en particulier. Et puis, je suis aussi amie avec la famille Zinger. Donc là, ils ont été cachés à 4. La maman, 2 enfants et une cousine. Et Lucien Zinger, 94 ans, est un très proche ami maintenant. Voilà. Quand je vais à Paris, j'habite chez lui.
Donc c'est en lien, vous, aujourd'hui, avec tous ces liens que vous avez créés avec ces gens, ça fait partie de votre histoire. Ou est-ce que c'est vraiment une enquête, il y a quelque chose d'historique que vous voulez amener, vous, ces histoires-là, ces nombreuses histoires-là qui ont transité par Chambon-sur-Lignon avec la grande histoire ?
Oui, il y a un peu de tout ça. Disons que récemment, j'ai été sollicitée par Stéphane Benamou qui fait un documentaire sur les descendants des justes. Et donc, pour être un peu plus précise dans son film, j'ai creusé. Et c'est là où je suis allée de découverte en découverte. Mais à titre personnel, et depuis le moment en 2001 où j'ai assisté, 2002, où j'ai assisté à la remise de la médaille, pour moi, il y a un enjeu de transmission. Donc aujourd'hui, l'avenir, c'est nos propres enfants et nos petits-enfants. Moi, j'ai un petit-fils qui connaît Lucien Zinger. Ils ont 90 ans d'écart, presque. Mais néanmoins, ils s'entendent très bien. Et à un moment, ce petit, il aura la charge aussi de transmettre cette mémoire.
Et Bossendorf, aujourd'hui, donc l'endroit où vos grands-parents sont enterrés, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Vous y avez des souvenirs ? Vous y avez vécu ?
Oui, oui,
c'est l'endroit où vous rendez évidemment hommage à vos aïeux, mais au-delà de ça, ça représente quoi ?
Ah bah c'est le village où on passait toutes nos vacances d'enfants avec mes 4 frères et sœurs et mes 3 cousins. C'était un endroit, une maison très simple dans le haut du village. Et mes grands-parents, qui étaient des gens vraiment adorables et très tournés vers nous avaient construit un bac à sable. Ça a l'air bête comme ça, mais ce bac à sable, tu devais faire dans 4-5 mètres carrés. En fait, tous les gosses du village venaient jouer là. Et aujourd'hui, là, j'en profite pour saluer le maire du village, qui est un copain de bac à sable. Et ensuite, il nous avait construit une petite piscine. Et rebelote, tous les gosses du village venaient sauter dans cette piscine. Je n'ose imaginer la teneur en
bactéries.
En bactéries diverses et variées. Donc, c'était un endroit de jeunesse extrêmement heureux. Et puis, à leur mort, évidemment, très naturellement, ils ont été enterrés au cimetière de Bossendorf. Et ça fait, plus de 40 ans maintenant.
C'est presque un lieu de pèlerinage 80. Aujourd'hui.
Oui. Bon, on n'a pas trop d'occasion, mais j'ai deux frères. J'ai un frère et une sœur qui ont choisi de vivre en Alsace. Et nous, les deux autres, on était en Normandie et ailleurs en France. Et moi, maintenant, Chambon-sur-Lignon. Mais il y a ce lien extrêmement fort. Notre mère était strasbourgeoise. Ce lien extrêmement fort avec l'Alsace qui perdure dans la famille. C'est la famille Munch. C'est une famille où on a encore beaucoup de cousins et de gens. C'est une famille qui était marquante en Alsace et particulièrement à l'Armée du Salut.
Catherine Jabali, on va arriver vers la fin de cette interview. On va revenir sur ce qui vous amène aujourd'hui. C'est l'identité, c'est les recherches que vous menez pour découvrir l'identité de certains jeunes qui ont transité par cette maison des Grillons. Et également pour les besoins d'un film documentaire, vous avez besoin d'avoir plus d'éléments. Alors dites-nous exactement de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut vous contacter et concrètement comment ça peut se passer pour quelqu'un qui aurait des éléments, peut-être juste un récit, peut-être une bribe d'histoire qu'il a entendue. Comment est-ce que ça peut se passer ?
Alors aujourd'hui, moi j'ai, grâce au travail des historiens locaux et de Muriel Rosenberg, j'ai 51 noms d'enfants passés par les Grillons. De l'autre côté, j'ai plein de visages sur des photos, beaucoup plus que 51 d'ailleurs, que je ne sais pas toujours assembler. Peut-être j'en ai assemblé 15 à 20 aujourd'hui, grâce à l'aide aussi du Mémorial de la Shoah à Paris. Donc si des gens se reconnaissent sur mes photos, ou reconnaissent plutôt leurs ancêtres, leur famille, je serais heureuse de le savoir. Et puis, il y a peut-être aussi des noms que j'ignore parce que dans cette période, d'abord, on ne fonctionnait pas forcément sous sa vraie identité et on ne donnait pas toujours son identité à la famille. On était caché. Donc voilà, il y a peut-être encore d'autres noms. Donc tous ceux qui, à un moment donné, sont passés par les Grillons, nous sommes à l'Association des Amis du lieu de mémoire très preneurs de leurs témoignages. Donc on a un site internet, on peut nous y trouver. Il y a un formulaire de contact et de cette façon, ça me sera transmis et je répondrai à chacun.
Parce que les enfants, vous le disiez, n'étaient pas forcément sur leur vraie identité quand ils ont été scolarisés à l'école de Chambon. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous portez. Vous avez besoin de trouver ces réponses. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite? Est-ce que vous portez profondément l'histoire de vos grands-parents? Ça va au-delà, justement, d'un récit. C'est quelque chose que vous portez profondément?
En tant qu'habitante du Chambon, c'est sûr que ça a une importance, puisque, comme je vous le disais, les miens ont été reconnus, mais le village et le plateau, dans ce lieu qui est à 50 km de Strasbourg, de Saint-Étienne, une heure et demie de Lyon et pas très loin du Puy, ce lieu a cette histoire singulière, c'est le seul village français qui a un diplôme de Yad Vashem et un autre village en Europe du Nord, aux Pays-Bas, je crois. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas neutre dans notre histoire collective. Après, mes camarades de l'association et moi, on essaie de faire vivre quelque chose dans le présent. Donc c'est plus un lien entre descendants, dans des logiques d'abord de mieux connaître ce qui s'est passé. Vous savez, l'histoire contemporaine, finalement, c'est des boîtes qui s'ouvrent parfois 25 ans. Là, en l'occurrence, on est dans les 80 ans plus tard. C'est des boîtes qui s'ouvrent tard. Les gens, quand ils ont eu la chance d'échapper à la Shoah, beaucoup d'entre eux ne se sont pas retournés vers le passé parce qu'il était trop douloureux. Donc, nous, au Chambon, nous avons une histoire assez lumineuse de sauvetage. Et à ma connaissance, sauf un dont le destin est incertain, les 50 passés par les Grillons ont été sauvés et ont repris le cours d'une vie qui souvent était très heureuse, pour ce que je peux en savoir.
Et donc, vous disiez 51 enfants, un enfant qui est décédé. Combien aujourd'hui d'enfants concrètement ont été retrouvés? Vous avez retrouvé une trace, un nom, une identité?
Pour le moment, je peux associer entre 15 et 20 noms et visages. Voilà. Et j'en connais personnellement 3 vivants et j'en ai connu 5.
Écoutez, le chemin est encore long pour découvrir, mais en même temps, ça veut dire que il y a encore aujourd'hui l'espoir de redonner et une identité et aussi d'amener un récit à une personne qui peut-être elle était petite et ne s'en souvient pas, ou de comme vous avez été nourrie par l'histoire de vos grands-parents, peut-être qu'aujourd'hui des descendants aussi pourraient découvrir l'histoire de leurs grands-parents.
Espérons, ce serait une belle chose.
Catherine Jabali, merci infiniment merci d'être passée nous voir. Donc je rappelle, vous êtes la petite fille d'Elisabeth et Eugène Munch. Ils reposent tous les deux au cimetière de Bossendorf dans le Bas-Rhin, c'est pas très loin de Strasbourg. Et ils viennent d'être honorés par une plaque commémorative liée à leur titre de « Juste parmi les nations ». Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.